bien bonjour, bienvenue à Aime l'été, mardi 27 août. C'est un plaisir de vous retrouver, toute l'équipe réunie pour quelques jours encore. Et oui, dernière semaine de notre saison estivale. Saluons le retour de vacances aussi de Mathieu Tessier, qui est de nouveau à la mise en onde et à la réalisation. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Eh bien aujourd'hui, oui, bonjour, bien occupé. Et puis on va parler de danse pour les Couche-Tôt aujourd'hui. On va aussi parler d'un organisme qui contribue à améliorer l'accessibilité des personnes à capacité physique restreinte, notamment dans le domaine du tourisme. On va également discuter d'un balado qui s'intéresse à des histoires vraies, des histoires touchantes, drôles et authentiques sur des gens qui ont connu de la détresse émotionnelle et psychologique, mais qui ont su se relever dans l'adversité, dis-je bien. Au cours de cette prochaine heure, je vous invite à nous suivre à Aime l'été. Nous allons accueillir Simon April, responsable de la formation et de la défense des droits chez Kéroul, cet organisme bien connu qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte au Québec. On va de même parler de boîtes de nuit pour ceux et celles qui n'ont plus 20 ans. Est-ce que c'est une tendance de sortir tôt dans les bars et d'aller danser à une heure plus raisonnable? On s'entretient avec Richard Poirier et Gilles Boucher, organisateurs de soirées au bar La Roquette. Mais nous allons entamer l'émission avec Éliane Gagnon et Alexandre Martel qui nous présentent leur balado Puis après, qui réunit différentes personnes, parfois des personnalités connues, pour parler de comment ils se sont relevés après des moments difficiles. Alors suivez-nous à Aime l'été! Alors, Aime l'été. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Chantal.
On va essayer de mettre les mots dans le bon ordre puis de ne pas s'enfarger.
Mais c'est normal. Oui. Écoute, ça achève, non?
Mais oui,
on est presque à la fin de la saison.
Alors, c'est ça.
Alors, cette journée était un peu éprouvante. Je ne sais pas pourquoi.
On courait après. Je courais après mes infos. Je courais après ma petite présentation, mais ce n'est pas grave.
Ouais.
Alors, voilà. Et Mathieu qui rit bien de moi. Et
ouais.
J'aime ça, oui.
C'est ouais.
Ça. Bon. Alors, on va commencer avec... on va parler de balado aujourd'hui.
Oui, exactement.
Avec Éliane Gagnon et Alexandre Martel qui présentent un balado qui s'intitule « Puis après ». Et voilà, c'est comme ça que ça s'intitule. Et ça va être présenté ici même sur Canal M. Alors, ce sera à suivre. Bonjour, vous deux.
Bonjour.
Ça allez, vous deux?
Oui, ça vient.
Ah, oui. Alors, ben, c'est ça. OK, je pensais que tu allais ajouter quelque
non,
chose.
Non, pas.
Ben oui. Alors, à quel moment pensez-vous que ça va être présenté ici à Canal M?
C'est à partir du 3 septembre que la diffusion va commencer. Par contre, je ne sais pas si ça va être un par semaine ou nous, les épisodes, on en a 7 de sortie jusqu'à maintenant. Donc, c'est à partir du 3 septembre sur le Canal M.
Alors, écoute, Éliane, on t'a déjà parlé cet été pour un autre projet, mais enfin, tout est lié de toute façon. Alors, c'était pour Sober Lab. Hein. C'est un endroit de répit, finalement, pour les gens qui veulent vivre dans la sobriété, entre autres, que ce soit au niveau de l'alcool, au niveau des drogues et tout, mais à tous les niveaux, là. Vraiment, quand on est dépendant, on peut l'être pour bien de choses, pour bien des choses. Mais alors, vous deux, là, vous vous connaissiez, Alexandre Martel et Éliane Gagnon, et vous avez décidé, finalement, quand vous vous êtes retrouvés, parce que vous êtes de la génération Ramdam.
Oui.
En fait, oui, de cette époque-là. En fait, on s'est connus un peu à cette époque-là. Moi, je n'étais pas dans Ramdam, soit dit en passant. Et on s'est perdu de vue plusieurs années, peut-être. J'aurais beau dire une quinzaine d'années, hein, Éliane, si je ne me trompe
ouais.
pas.
Ouais.
En se retrouvant, parce qu'on s'est rendu compte qu'on habitait à quelques minutes l'un de l'autre dans les Laurentides, et puis on soupait et on parlait du passé pour se rendre compte que, évidemment, Éliane s'est relevée de beaucoup de choses, et moi aussi, dans mon passé, pas nécessairement de dépendance, mais d'épreuves, d'adversité. Et on parlait de tout ça avec un peu de nostalgie de notre passé et on a décidé effectivement d'en faire un podcast qui s'appelle « Puis après ».
Eh oui, puis après, par exemple, une séparation, puis après, je sais pas, un accident, ou après, il y a plein de choses.
En fait, dans notre vie, on a tous un « puis après ».
On
hein?
a tous un « puis après ».
C'est vrai que « puis après », « puis après la retraite », « puis après le divorce », « puis après », tu sais, on vit tous des moments difficiles dans notre vie où il faut se relever à un moment donné. Puis écoute, il y en a beaucoup là, des exemples de podcasts, d'histoires que vous avez, ouais. Là, puis après avoir été mannequin, puis après avoir été comédien dans Ramdam, puis il y en a là, des sujets.
Ouais.
Ça, c'est sans fin. Oui, vous pouvez faire ça sans fin, là.
Absolument, parce que chaque personne, évidemment, il y a des pieds après qui sont un petit peu plus marquants que d'autres,
ouais.
Mais on se rend compte qu'on en a tous plusieurs, il y a beaucoup de choses qui sont reliées. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui est intéressant du podcast, c'est que c'est pas un podcast qui est lourd. Oui, il y a des sujets qui sont un petit peu plus délicats.
Mm-hmm.
Par contre, on part d'un événement qui est peut-être un petit peu plus lourd, mais on en ressort plus de positif que d'autres mm-hmm. choses. Donc, c'est un podcast qui est vraiment dans le positif, finalement, dans la lumière.
Oui, parce
dans l'espoir.
Ouais, parce qu'il peut y avoir des sujets très lourds là, que ce soit l'inceste notamment, mais mm. des gens qui ont su rebondir malgré tout et comme vous dites faire du positif. Vous avez vous avez été quand même influencé un petit peu aussi par influencé pas nécessairement directement, mais vous avez lu, je pense tous les deux, le fameux livre de Oprah mm. Winfrey et que vous est-il arrivé. Alors ça s'est inspiré un petit peu votre projet, ouais.
Absolument, tout l'aspect. T'sais, les traumas qu'on peut vivre dans une vie qui font en sorte qu'on ce qui nous est arrivé ne nous définit pas, mais ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces événements-là? Comment on peut apprendre à parler de régulation émotionnelle? Comment on apprend à se réguler émotionnellement pour pouvoir avoir une vie satisfaisante, une vie épanouie, t'sais? Parce que c'est facile de rester dans la victimisation, dans l'apitoiement, dans le problème finalement. Mais Oprah, dans ce livre-là, avec le docteur Bruce Perry, il amène des solutions puis il raconte toutes sortes d'histoires qui nous ont inspirés puis qui nous ont aidés dans notre propre relèvement, Alex et moi.
Est-ce que
oui, et non seulement des solutions, mais de comprendre, hein, parce que moi, j'ai compris avec ce livre-là, moi, j'ai compris à 36 ans que ça faisait 36 ans que j'étais dysrégulé émotionnellement.
Mmh.
Donc, on arrive à trouver, oui, des pistes de solutions, mais à comprendre, à analyser.
Et pourquoi,
ouais. Ben oui, ce qui nous arrive, ce qu'on vit, en fait, parce que c'est pas toujours facile hein, de mettre des mots sur ce qu'on ressent ou sur ce qu'on vit.
Mmh.
Et ça nous apprend ça.
Ouais.
Ouais. Et puis, je pense que toi, dans ton cas, Eliane, hein, tu trouvais, d'ailleurs, ça t'a toujours frappé aussi de voir à quel point les gars, les hommes, là, c'est tellement difficile pour eux aussi de s'ouvrir.
Tellement. C'est une clientèle qui me touche particulièrement, les hommes, parce que non seulement à la station Sober Lab, on a beaucoup d'hommes qui viennent utiliser nos services d'hébergement intermédiaire. C'est à peu près juste des hommes en ce moment. Puis on voit à quel point il y a un besoin aussi pour eux d'avoir un espace sécuritaire pour se comprendre, pour se nommer, pour être qui ils sont sans l'espèce d'étiquette qu'on peut mettre aux hommes, là, tout cas, l'étiquette négative, mettons.
L'étiquette et ou stéréotype.
Ouais.
Je veux pas voler de punch, mais on a eu un invité, le podcast n'est pas sorti encore, mais on a eu un invité qui est un ancien militaire. Hein, les militaires qui se tiennent très, très droits, qui sont à l'épreuve de tout, qui n'ont pas de sentiments, qui ne pleurent pas. Et pendant le podcast, on voit la vulnérabilité, la sensibilité de cette personne-là jusqu'au moment où il y a eu des larmes dans le podcast. Mm-hmm. Et c'est un homme. Et je vous le dis, ça fait du bien.
Justement, dans tous les invités que vous avez eus, est-ce que vous avez eu plus de révélations de la part des femmes que des hommes ou ça c'était pas mal égal dans les commentaires des gens? Mm. Est-ce que les hommes se sont livrés?
Absolument. Absolument. Okay. Je pense que du fait je pense que la dynamique qu'on installe fait en sorte que moi, je compare tout le temps ça à si on était entre amis autour d'un bon repas et on discute.
Mm-hmm.
Donc, je pense que les invités, autant hommes que femmes, ont une certaine facilité, oui, à s'ouvrir, mm-hmm. justement. Puis qu'on comprenne, c'est pas nécessairement nous qui dictons le podcast. Ce n'est pas une entrevue avec des questions prédéfinies. Alors, c'est l'invité qui se déballe et qui engage des sujets de conversation et on rebondit là-dessus. Mm-hmm. Alors, effectivement, la dynamique est très propice à ça.
Oui, c'est ça. Vous avez su créer finalement un espèce de climat à la fois d'intimité, de confiance aussi. Et dans ton cas, Alexandre, bon, suite à une séparation, ben là, évidemment, ça a été un peu la tourmente et tu as dû te repositionner, aller dans un endroit aussi pour te retrouver. Et puis, ben, au début, tu ne t'identifiais pas nécessairement à cette clientèle, aux gens qui étaient avec toi, parce que ça pouvait être des gens qui étaient aussi... Toi, tu n'avais pas de problème au niveau de la toxicomanie, mais il y en avait à l'endroit où tu es allé. Alors, c'était difficile pour toi, évidemment, ça a été confrontant à ce niveau-là.
Absolument, puis on va le nommer parce que je pense qu'il faut le nommer. C'est le, on appelle ça un centre de crise qui s'appelle Pour une pause à Saint-Jérôme. Puis en fait, oui, c'était de l'inconnu. Hein? Quand on pense que notre vie va bien, généralement, on ne s'informe pas de ces choses-là, de ces centres-là, de ces... Et quand je suis rentré là, je vous avoue être rentré un petit peu à reculons avec beaucoup de jugement. Par contre, j'avais, moi, quelque chose à régler. Et moi, j'avais besoin d'aide. De toute façon, je ne rentrais pas là pour les autres. Je rentrais là pour moi. Alors oui, ça a été une épreuve que je ne regrette pas du tout, mais vraiment pas. Si c'était à recommencer, je le ferais. C'est un centre où on a des suivis. On peut avoir des suivis 24 heures sur 24. En dehors des sessions
des ateliers qui sont prévus,
des ateliers, ouais. Exactement. Oui, il y avait beaucoup il y avait des gens qui avaient évidemment des problèmes de toxicomanie, mais de violence, de différentes addictions qu'on peut avoir. C'est pas très long, hein. On parle d'une thérapie fermée de 15 jours. Alors évidemment, on ressort de là avec beaucoup d'outils, mais il faut quand même continuer à aller dans le bon sens lorsqu'on se retrouve seul en sortant de là.
Eh oui. Je trouve une chose, c'est qu'en écoutant les balados, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que pour des gens qui ont un peu de mal, là, qui sont dans la tourmente, le fait d'écouter peut-être tous ces balados, on en retire quelque chose qui peut peut-être justement amener un déclic là, pour aller chercher de l'aide de façon avec des professionnels.
Absolument.
On le souhaite, en fait, hein, Eliane, c'est ce qu'on souhaite.
Ben oui, vraiment, c'est de semer des... On est des semeurs de prise de conscience, moi j'appelle ça.
Ah, c'est bien dit.
Ça.
Ben oui, tout à fait. Et vous êtes jeune, ben vous êtes des trentenaires, fin trentaine, et puis bon, ben c'est justement... Oui, c'est ça, mais c'est justement l'époque, là, un peu, là, on commence à faire des remises en question. Hein.
C'est... À s'éveiller, en fait. Moi, je trouve que la société, ben pas... On est dans une ère d'éveil, tu sais, de plus en plus les gens veulent bien vivre, être heureux, trouver des solutions pour se sentir bien, puis pas des solutions miracles nécessairement. Donc, on est vraiment à une ère de croissance personnelle puis d'échanges profonds, tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on va contribuer à guérir le monde d'une certaine manière. Tu sais, un humain à la fois, un échange à la fois, on peut faire une différence, je pense.
Oui, puis c'est pas nécessairement de guérir de dépendance ou d'alcoolisme. Vous l'avez dit tantôt, moi, c'était pas le but de faire une thérapie, ce n'était pas ça, mais moi, c'était comportemental. Donc, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont des tourments, mais qui ne sont pas liés à certaines dépendances. C'est plus des comportements.
Des traumas.
Des traumas, ça peut venir de très, très loin. Donc, en fait, il faut en parler. Hein? On en a souvent parlé, parce que parler, c'est grandir.
Oui, c'est la phrase clé qui, comme tu le disais dans le premier épisode, dans le premier balado, tu dis, bon, ça fait cliché, mais en réalité, c'est tout à fait ça.
C'est ça, exactement.
Alexandre, j'y crois, en tout cas.
Oui. Alexandre, tantôt, tu parlais d'un de tes invités anciennement dans l'armée, tout ça. Oui. Dans les cas, les personnes que vous avez reçues, avez-vous eu des cas qui vous ont marqué, des histoires marquantes?
C'est qu'il y en a beaucoup.
Il y a le Marilyn, moi qui m'avait. Marilyn, c'est pas une personnalité connue, mais c'est ça va être. Puis après les cendres, donc après un feu, après avoir passé au feu, puis une série d'épreuves. Moi, cet épisode-là en particulier m'avait quand même bouleversée, touchée. Mais toutes les invités, je pense que toutes les rencontres. Nous apporte de quoi, mais... Puis celle avec Luc aussi, l'ancien militaire, c'était quand même quelque chose. C'était quelque chose.
C'est ce que j'allais dire. Luc, je le connais depuis plus de 20 ans, ou à peu près. Et j'avoue que son entrevue m'a marqué parce que je connaissais déjà un petit peu son histoire. Mais il s'est tellement livré cette journée-là.
Ouais, c'est fou.
Et donc, moi, j'ai appris des choses, étant une personne qu'il connaît depuis plusieurs années, moi, j'ai appris des choses. Moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions à travers cette rencontre-là au podcast. Il y a plusieurs invités qui m'ont marqué, moi, pour différentes raisons, mais je pense que oui, Luc...
Mais est-ce que par moment, vous vous sentez déstabilisé vous-même? Est-ce que c'est difficile aussi d'accueillir tout ça? C'est parfois, ben, quand on se révèle, je pense à des sujets assez difficiles comme l'inceste notamment. Mais ça peut être des sujets plus légers comme comment... puis après le succès, ça peut être juste ça aussi.
Ouais.
Il y a aussi tout un... au niveau comportemental, bon, comment on se relève enfin, d'avoir eu du succès puis de plus en avoir ou enfin de devoir modifier notre parcours de vie, quoi.
Oui, exact. Absolument.
Moi, ça m'est arrivé quelques petites... J'ai été déstabilisé quelques fois. Tant mieux si ça n'a pas paru. Moi, j'ai ressenti. Et je sais précisément à quel moment et avec quel invité... Oui, ça arrive, je pense. Iliane et moi, on n'est pas des personnes insensibles. Et je pense que ça fait un peu la couleur du podcast, c'est qu'on reste pas froid, on reste pas détaché des histoires qu'on nous raconte. On se laisse vraiment, je pense, imprégner. Alors oui, des fois, à travers les invités, moi, il y a des choses qui sont venues me chercher, qui m'ont ramené des fois à penser à mes histoires personnelles, des triggers communément appelés, excusez-moi l'anglicisme, mais...
Des déclencheurs.
Des déclencheurs, exactement.
Ouais. Dans ton cas, Iliane, ben, c'est sûr, tu as, bon, t'es comédienne, tu jouais dans Ramdam, et puis bon, ben, t'étais partie pour la gloire, et puis bon, dans ton cas, ben, t'as eu un accident de voiture au moment où tu t'en allais aux États-Unis, avec peut-être l'idée de faire une carrière là, d'actrice et tout. Alors, et dans ton cas, Alexandre, ben, tu étais ben, dans le domaine du cirque, entre autres, hein, de l'événementiel. En fait, tu faisais plein de choses aussi et tu continues.
Absolument.
Mais tu continues ton métier. Mais c'est vraiment, toi, c'est plus l'angle de la séparation. Évidemment, la famille, ça a été très, très déstabilisant pour toi.
Ça a été mon déclencheur.
Ouais, exactement.
Pour me reprendre en main, oui.
Ouais. Et puis, ben, c'est ça, au fil du temps, ben, je veux dire, là, finalement, vous êtes comme, ben, j'allais dire, c'est un beau problème d'avoir du succès, puis de, ben, parce que vous êtes suivi, puis vous avez acquis une certaine crédibilité. Et puis là, ben, comme on dit, vous pourriez en avoir autant que vous voulez. Vous pourriez faire ça pendant 10 ans, puis il y en aurait toujours.
Absolument.
Oui, c'est vrai. C'est un projet qui ne va pas s'essouffler. Tant qu'on va avoir envie de le faire, on va pouvoir le faire. Fait que c'est vraiment, c'est bien dit, oui.
Puis je l'ai toujours dit, moi, quand on vit quelque chose de difficile, on ne veut pas se sentir seul à le vivre. C'est fou, c'est niaiseux, mais ce que je veux dire, c'est que si je vis quelque chose de difficile puis que j'écoute un balado et que j'entends quelqu'un qui parle d'une histoire semblable à la mienne, qui donne des conseils, qui dit comment elle s'en est sortie, cette personne-là, ben ça m'aide, moi, à la maison.
C'est clair.
Ouais.
Absolument, et j'en profite suite à ça pour dire aux gens qui l'ont écouté ou qui vont l'écouter, soyez pas gênés de nous écrire non plus sur nos réseaux sociaux personnels ou c'est important
ou
Soberlab, écrivez-nous, parlez-nous, ça va nous faire plaisir.
Oui, puis ça peut être ça peut faire l'objet d'un autre balado si on a une histoire particulière qui effectivement se démarque et puis bon, qui pourrait peut-être aider les autres. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre balado numéro 1, là, le premier, c'est qu'en fait, là, vous recevez mutuellement, c'est-à-dire que là, c'est en guise de présentation. Enfin, vous parlez de vous, de sorte que ça campe bien ce qui va suivre finalement dans les autres balados.
J'ai bien aimé ce balado-là. Ben oui, je trouve ça intéressant que vous vous présentiez puis qu'on sait qui sont les deux personnes qui sont là. Puis on apprend votre histoire, puis j'ai bien aimé ça, moi.
Ah, cool! Mais on en fera peut-être une fois de temps en temps pour remettre les choses à jour.
Oui, parce qu'il était court en plus. Hein.
Oui, il était court.
Mais on a appris à vous connaître.
Oui, c'est vrai. Ah, ben merci!
Ben. Alors, c'est ça. Et puis la suite des choses, ben, est-ce que ça génère d'autres idées pour la suite?
My God, des idées, moi, faut qu'on m'en enlève.
Ouais, Eliane, des idées.
C'est pas ça qui manque, hein, je pense.
Ouais, non, mais évidemment qu'on va faire une saison 2, ça, c'est sûr. On se penche là-dessus, on va changer un petit peu des choses au niveau visuel, le décor, on va ajouter une petite touche un petit peu plus personnelle dans le prochain décor de la saison 2. Nos invités, on a déjà une douzaine d'invités qu'on a sélectionnés. Hein, ouais. Mais ça pourrait changer, là. Ça se peut que ça varie, mais notre liste est comme faite. Puis c'est encore des belles épreuves. T'sais, moi je remercie les épreuves dans la vie. T'sais, j'ai l'impression que quand on dit merci aux épreuves, la vie est plus facile. Puis je dis merci aux invités de venir nous partager leurs épreuves aussi, parce que sans ça, je veux dire, la vie est difficile. Fait que de savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir de la difficulté. Comme Nathalie t'a dit, dans le fond, j'aime juste dans d'autres mots, mais c'est vraiment ça, tu sais. Fait que j'ai énormément de gratitude pour ce projet-là avec mon ami Alex, puis que Canal M nous diffuse. C'est vraiment extraordinaire, pour vrai. Puis merci de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Ça nous a fait un grand plaisir de vous accueillir. Et puis, on va vous écouter, bien sûr, parce que ce n'est pas les sujets qui manquent, encore une fois. Et puis, en même temps, tout le monde grandit à travers ça. Puis, ça fait en sorte que, oui, quand on se relève de situations difficiles, on va tous en vivre. Tant mieux si les épreuves sont plus faciles que d'autres. Quand même, il reste que ça enrichit aussi. Ça donne plusieurs couches à notre vie. Ouais.
Vraiment.
Ouais. Il reste quelques épisodes à sortir pour la saison 1. Ouais. Et après, on va entamer la saison 2. Donc,
Il en reste 5. C'est ça. On a 12 épisodes par saison. C'est le nombre qu'on a choisi. 12, parce qu'on aime le chiffre 12. Et voilà.
Bon, c'est un beau chiffre.
C'est
bon. Merci. En tout cas, merci Eliane Gagnon, Alexandre Martel. Alors, le balado, puis après, c'est à suivre.
Merci à vous
deux.
Merci.
Bye. Merci. Bonne journée.
Bye. Écoute, dans les podcasts, un que j'aime beaucoup, c'est l'humoriste d'Alexandre Barrette.
Oui.
Le podcast d'Alexandre Barrette, humoriste, qui s'intéresse aux peines d'amour.
Ah.
Parce qu'Alex, il y a de ça plusieurs années, il a traversé vraiment une rupture amoureuse assez rude. Puis, on en a tous des gens qui vivent des peines d'amour dans notre vie. Et puis, lui, il reçoit des gens qui viennent parler de leurs peines d'amour, différentes peines d'amour. Dont la mienne, je suis allée, j'ai participé.
Oui, c'est vrai.
Ouais, j'ai participé, je suis allée parler de...
C'est tout récent.
Ouais, c'est tout récent, c'est pas encore diffusé, mais ce que j'apprécie, comme je disais à Eliane tantôt, c'est que des peines d'amour, tout le monde en a envie, on en vit tous.
Tout à fait.
Et puis, on se reconnaît, puis en même temps, on écoute les conseils, les trucs, comment les gens ce que les gens font pour s'en sortir, et... Fait que donc, le podcast d'Alexandre Barrette qui s'appelle « Oublie pas ta brosse à dents ». Alors, tu peux l'écouter sur Audible, Apple, YouTube, et c'est gratuit. Puis, il s'entretient avec des personnalités connues, puis des gens, non connus, pas comme moi.
Parfait. Bon, alors, écoute, on s'arrête le temps juste d'une petite pause. Je sais qu'on va avoir à la demi une autre pause. On avait aussi un extrait d'un balado, en fait, pas d'un balado, mais un extrait d'une entrevue qu'on a fait avec Guylaine Marois au début de l'été à propos du balado Beau Dommage qui est présenté sur la plateforme audio de Radio-Canada. Et puis, évidemment, il y a le spectacle Beau Dommage là, qui va être présenté bientôt. Alors, on écoute ça à l'instant.
J'ai commencé en 2014. C'est le premier pitch que j'ai fait au groupe. C'était en 2014 autour d'un souper que Pierre Huet, qui est parolier du groupe, avait organisé. Donc, et ça a été au fil des années, il y a eu plusieurs itérations de ce projet-là. Puis au moment de le réaliser, j'ai eu le go de Radio-Canada pour faire une balado grâce à Caroline Jamais, qui est la directrice. Et là, j'étais plus capable de réaliser parce que je m'en allais réaliser un autre film.
Mm-hmm.
Et là, j'ai approché une boîte et Sarah Fortin, qui est une grande mélomane elle aussi, parce que ça prenait une réalisatrice ou un réalisateur qui avait cette sensibilité-là. Puis avec un monteur aussi qui s'appelle Maxime Veilleux, qui est musicien.
Ouais.
Et l'idée, c'est vraiment de faire... On fait écouter des bouts de musique à chacun des membres du groupe Et c'est le souvenir qui remonte à la surface. Et c'est drôle parce que les membres du groupe n'ont pas les mêmes souvenirs. C'est pour ça qu'on les a faits séparément. Et c'est ce qui rend le truc intéressant aussi. C'est plusieurs perspectives sur une même réalité. Puis aussi, il y avait quelque chose d'émouvant, d'émotionnel là-dedans. Puis c'est le beau trip de la musique et d'entendre, par exemple, les voix, juste leur voix, tu sais, les fameuses harmonies vocales de Beau Dommage, les entendre a cappella, c'est absolument magique.
Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, on parle de pratiquement, c'était comme de les entendre. Il y a un des membres qui dit que c'était comme un arc-en-ciel, finalement, d'entendre ces harmonies-là, ces voix ensemble. C'était vraiment magnifique. On va écouter un extrait, si vous voulez bien, Guylaine Marois.
Oui, merci.
Je dois concéder que c'est une grande réussite d'ouvrir un album avec ça. Ça part. Ça part l'affaire, puis ça fait attention, vous avez jamais entendu ça.
Mesdames et messieurs, Beau Dommage!
Il me semble qu'on a ouvert beaucoup, 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 beaucoup de spectacles avec tous les paliers. Ça ouvrait tellement bien. C'était tellement... On est Beau Dommage, c'est ça qu'on fait. C'est une tune qui dit ça.
M'arriver en ville jeudi midi.
En 1974.
Alors c'est ça. Donc c'est truffé d'anecdotes. Bon, évidemment, oui. Chacun y va de son commentaire. Tout le monde avait la tête à la même place, comme le dit Michel Rivard. Alors c'est toute une époque en même temps.
C'est toute une époque et c'est aussi ces chansons-là. Elle nous accompagne, chaque Québécois, puis de génération en génération, parce qu'il y a des jeunes qui ont 15, 20 ans et qui connaissent ces chansons-là, parce que ça fait partie de notre ADN. Alors, moi, j'ai reçu là, dans la dernière semaine des messages de partout, de gens qui me disent le plaisir, le bonheur qu'ils ont à écouter ce balado.
Puis ce balado
parce
aussi.
Ils ont écouté ces chansons-là, ouais. Tu sais, puis ça fait partie de nous.
Et oui, alors c'était Guylaine Marois qu'on recevait au tout début de l'été pour parler du balado Beau Dommage, qui en fait, c'est le premier album hein, de ce groupe québécois en référence avec ce premier album. Et puis alors, c'est ça, donc la musique de Beau Dommage en passant, qui va faire l'objet d'un concert symphonique mm-hmm. là à compter de vendredi, présenté par l'Orchestre métropolitain à la Maison symphonique. Alors, tout est dans tout, comme on dit. Alors, c'est intéressant juste, c'est parce qu'on parlait de tu parlais de ton balado, moi je parlais du mien, ce que j'avais aimé comme balado. Oui. Récemment. Alors, c'est ce balado de Guylaine Marois. C'était l'idéatrice du projet. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et on revient tout juste après et on parle de danse pour les couche-tôt.
Vous écoutez Aime l'été.
Aime l'été, deuxième moitié d'heure. Et là, vraiment, on se lâche lousse, comme on dit. On va parler de danse. Quelque chose qu'on ne fait plus. Alors, j'accueille mes invités tout de suite. Bien, qu'on ne fait plus, en tout cas moi, que je ne fais plus beaucoup. Alors, Richard Poirier, Gilbert Boucher et Catherine Bourderon, enfin, pour les deux premiers, bien, vous êtes propriétaires du bar La Roquette.
Les organisateurs.
Les organisateurs.
Les organisateurs de
d'accord.
la danse du 6 à 10.
Ah, non pas c'est les propriétaires. C'est une danse spéciale, mais oui. En fait, on va l'expliquer. Ce sont des danses pour les couche-tôt. C'est-à-dire, ça se passe un peu plus tôt que d'habitude. Est-ce qu'on est obligé de danser tard le soir, finalement, quand on travaille le matin? Peut-être qu'on peut faire ça plus de bonne heure. C'est un peu le sujet, là. Alors, on a trouvé ça intéressant parce qu'on avait parlé de vous. Je sais qu'il y a des articles qui sont sortis là-dessus. Et puis, Catherine, toi, t'es une habituée. T'aimes ça, aller danser le soir?
Mais j'aime beaucoup aller danser. J'ai rencontré ces organisateurs-là. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a un gros engouement en ce moment pour aller danser de 6 à 10. À côté d'ici, au Robin des Bois, ils le font. Même de manière interplanétaire, les gens qui sont... Là, vous vous annoncez pour les 40 ans et plus, mais les 50, les mononcles puis les patentes, ils veulent aller danser, ils veulent avoir du fun et puis ils veulent se coucher tôt et faire des activités le lendemain. Donc, c'est intéressant de voir que ces deux organisateurs-là ont comme été dans le pouls de la société et organisé des soirées comme celle-ci. Ouais. Celles-ci, elles existent depuis combien de temps, ces soirées-là, aux Roquettes? Parce qu'avant, vous étiez au Belmont, si je comprends bien.
Oui, la danse comme telle existe depuis janvier 2000. C'était pas nous qui l'organisions, mais c'était au Belmont. On a repris les danses en 2013, hein, Richard, c'est ça?
Oui,
en
tout 2013, en gardant le concept de
la danse au CC10. Après ça, on a quitté le Belmont. On est allé
au Mikasa.
Au Mikasa,
le COVID.
Le merveilleux COVID.
Ah, ben là, on a fait pause, bien sûr.
Puis après ça, ben, on a recommencé au Rocket. Tout d'accord, simplement, toujours ça. Sur le concept du 6 à 10. Il faut dire qu'au Belmont, c'est le 5 à 9, mais on a juste modifié. Ouais. Puis on fait ça une fois par mois.
D'accord. Et contrairement à ce qu'on pense, finalement, maintenant, les jeunes, c'est plus comme avant. Là. On pense que les jeunes sortent toujours très tard, mais même les jeunes, semble-t-il, se couchent plus tôt qu'à l'habitude, je pense.
En fait, c'est qu'au départ, nous, on a visé une clientèle de 40 ans et plus, puis on s'affiche de cette façon-là, mais on carte personne à l'entrée pour savoir si on a l'âge... atteint la maturité pour danser avec nous. mais en même temps, ben, les gens qui sont plus jeunes, ils doivent s'attendre à ce que la clientèle qui est sur place ait quand même 40 ans et plus. Alors, c'est juste d'être transparent avec eux.
Ce qui est intéressant, Richard, c'est qu'on peut aller danser avec nos enfants.
Effectivement.
Moi, j'ai 60 et je peux très bien aller danser avec mon fils qui a 23. Je trouve ça le fun. C'est une activité familiale à la limite, non?
Tout à fait juste, oui. Ça peut être tout à fait ça. Est-ce que ça vous arrive finalement de voir des...
Mais le plus drôle dans ces choses-là, c'est que quand...
Mère
et fille. En tout cas, quand les personnes amènent ses enfants puis qu'ils ont ça 20, 22, 23, ils ont les yeux grands comme des dollars. Ils ne comprennent pas là, que mon oncle puis ma tante peuvent avoir autant de fun parce que... On danse des fois plus qu'eux autres, puis moins... on voit pas ça, nous autres. Les sacoches dans le milieu, puis 8 filles alentour. Des filles qui font ça, ils ont 20 ans, mais les femmes de 40-50 ans font plus ça, ils dansent tout simplement.
Non, on voit pas ça parce qu'il y a un vestiaire aussi. Alors, la clientèle peut laisser leur sacoche sur la coche, quoi.
Ce que je trouve intéressant, Chantal, si je peux me permettre une observation, c'est que je suis allée à quelques reprises dans ces soirées-là, puis comme 8 heures... du soir, on a pris 2 bières, le gars à côté nous a dragué ou flirté. C'est la Dolce Vita. Puis à un moment donné, on se dit, coudonc, il est-tu 3 heures du matin? Mais non, il est juste 8 heures du soir. Donc, je trouve ça intéressant de vivre un peu notre jeunesse.
Alors, t'es en train de dire que tu peux prolonger la soirée, t'as encore bien du temps devant toi.
T'es rien qui sent. Non, mais je trouve ça intéressant. Qui est-ce que les gens, ils vont pour flirter? Votre public cible, c'est qui au juste?
Je ne dois pas dire qu'au départ, on ne s'affiche pas comme une place de rencontre. Il reste que c'est un endroit public et les gens ont la possibilité de rencontrer quand même, mais ce n'est pas le but premier de présenter nos soirées comme une place de rencontre en soi.
Non, c'est vraiment pour la danse.
C'est ça.
Dans toutes les publicités qu'on fait, on parle de danse. Et on ne parle pas de venir rencontrer quelqu'un. Richard, dis donc notre devise.
Enfin, on a un slogan pour illustrer ce qu'on fait. C'est le meilleur endroit pour danser sans y passer la nuit.
Mais Richard, est-ce qu'on va disons les vrais affaires. Quand on a 40, 50, 60 ans, il n'y a plus vraiment d'endroit pour rencontrer l'être aimé ou l'âme sœur. C'est sûr qu'on veut danser. Mais il est clair que ce qui est intéressant dans ces soirées-là, tous les gens ont le même âge que nous. La plupart des gens, on est comme dans un bassin de la population qui ont à peu près les mêmes envies, c'est-à-dire danser. Puis si t'es célibataire, c'est bien le fun parce que finalement, c'est un endroit où les gens nous ressemblent et ont le même âge que nous. Alors que lorsqu'on va en discothèque maintenant, c'est juste des jeunes. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas que je vous dis qu'on doit draguer puis flirter, etc. Mais c'est intéressant de voir des soirées où finalement... les gens du même couperage se rejoignent. C'est ce que j'ai remarqué dans vos soirées.
C'est sûr qu'on a un certain groupe de même groupe d'âge ou créneau d'âge. Les gens ont plus de facilité à se rencontrer s'ils partagent une affinité pour la danse.
Mais n'empêche qu'il peut y avoir une mixité aussi par rapport... il y a des jeunes aussi qui... Parce qu'en fait, je pense à moi, là, quand j'étais jeune, on dansait plus jeune. On danse dans les mariages, hein. C'est vrai, dans des événements comme ça. Mais vraiment, c'est pas tout le monde. On n'a plus la chance on n'y pense plus aller dans les boîtes de nuit là, pour danser. En tout cas, moi, je trouve que ça s'est beaucoup perdu. C'est pas parce qu'on n'aime pas danser. Mais alors, c'est vraiment, vous nous redonnez le goût d'y aller juste peut-être à cause de ce positionnement d'heure qui est plus raisonnable. Donc, de sorte qu'on peut aller prendre, on peut se faire un 5 à 7, façon, c'est pas un 5 à 7, mais un 6 à 8, mettons, ou un 6 à 10. Et puis, on peut en même temps, on profite de la danse.
pleinement. Et bon, c'est une bonne activité en passant, oui, pour se mettre en forme. Bon, mais ça me manque beaucoup, alors que j'avais l'impression qu'on ne dansait plus, tu sais. Mais évidemment, il y a le karaoké qui est devenu très populaire, mais la danse, est-ce que vous diriez que ça correspond vraiment? Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent de nouveau?
Ça intéresse. On a eu toujours une bonne foule qui vient à nos danses tout le temps. Fait que ça répond à un besoin. Ça, c'est clair, on était précis. Donc,
On peut dire, si on regarde les chiffres, parce que là, on regarde, je veux dire, le nombre de clients qu'on reçoit par rapport à dans le passé, c'est que maintenant, ce qui est bien aussi au Rocket, c'est que les gens ne sont pas mis dehors à 10 heures le soir. Là. Je veux dire, la soirée du Rocket, elle commence normalement à 10 heures.
Je comprends. Oui.
Alors, un client peut arriver à 7 heures puis partir à 2 heures du matin s'il veut, ou il arrive à 6 heures, puis à partir de 10 heures le soir, il a dansé pendant 4 heures, puis il est rassasié, puis il va ailleurs, puis il fait des choses le lendemain parce qu'il a la possibilité de le faire.
Alors, depuis le temps que vous faites ça, que vous organisez ce genre de soirée, dites-moi, la musique maintenant, qu'en est-il de la musique?
Ça, c'est vrai.
Alors, ça veut dire aussi que vous y allez dans des musiques qui sont pas les mêmes que si vous aviez une clientèle plus jeune.
C'est vrai, en fait, je pense que c'est un pouvoir d'attraction. Le DJ est d'ailleurs une vedette, on le connaît, c'est un DJ très connu à Montréal.
Oui, mais la musique qu'on a, c'est toujours un peu la même chose. On dit 80 à 2024, grosso modo, avec...
Enfin, le DJ est plus spécialisé un peu dans la musique rétro, mais c'est de la musique qui va plus chercher justement une clientèle qui...
Il s'appelle comment, le DJ?
Mathieu.
Mais il est connu. C'est lui qui a fait tout le temps au passeport. Et c'est un DJ très connu.
On n'a pas eu à se compliquer la vie. Quand on a sollicité le Rocket avec notre concept, on s'est entendu assez bien avec le DJ. Mathieu, puis il fallait avoir aussi une musique qui se mariait avec notre concept. Là, je veux dire,
bien sûr.
Donc, on a expliqué notre concept au DJ qui a répondu tout simplement bien à la musique, mm-hmm. parce que c'est un bon DJ, tout simplement.
Mm-hmm. Et puis, en même temps, la danse, il y a quelque chose de culturel, dans le sens qu'il y a des communautés culturelles qui dansent plus naturellement, danser dans la rue, des choses comme mm-hmm. ça. Ce qu'on ne fait pas, peut-être pas nous, je ne sais pas, au Québec, là, il y a eu comme une période où ça s'est un petit peu, comme on dit, estompé un peu ces habitudes de danser qu'on avait autrefois. Bon, nos parents dansaient quand ils faisaient des soirées à la maison. Alors, bon, danse sociale et tout, mais les gens un peu plus jeunes, effectivement, bon, ils se rencontrent pour un souper, mais oublient l'aspect danse. Enfin, c'est mon impression, mais c'est comme une espèce de thérapie collective. En fait, quand on va chez vous, Alors, je pense que c'est vraiment très apprécié, forcément.
Ouais. Ben, c'est un peu un défoulement aussi.
Oui, c'est
gens,
ça, une sorte de thérapie.
Ils peuvent oublier leurs troubles et puis s'amuser, puis se laisser aller. Alors, on n'est pas dans le camp à soi, puis les gens qui se aient bien mis, puis les gens sont trop conscients de l'image qu'ils ont, qu'ils projettent. Là. Les gens sont là pour s'amuser, puis... Il peut être 7h30 le soir, puis il y a 125 personnes sur la piste de danse. Là. L'atmosphère est là, même si
exact, c'est... Exact, ça ne change rien. Et il n'y a pas de code vestimentaire hein, non plus.
Non.
Oui, et puis, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait plus de femmes. Est-ce que je me trompe?
Ça dépend des soirées, mais je dirais que par expérience, il y a légèrement plus de femmes que d'hommes. Je dis bien légèrement.
Effectivement, c'est l'impression que j'ai. On n'a vraiment pas compté, là, mais bon. Mais je crois, de façon générale, la danse va plus chercher les femmes que les hommes. Les hommes, peut-être, sont moins à l'aise de se laisser aller à danser, de façon générale, mais bon.
Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, ça a toujours été, je pense, sur les pistes de danse, que ce soit ou dans les familles. C'est rare que, oui, les hommes dansent toujours moins. Quand on a des chums, là, on le sait.
Il
ouais,
y a des exceptions, quand même.
Mais il y a des exceptions,
il faut les tirer par la cravate.
Il y a des maîtres chanteurs, des maîtres danseurs. Alors, effectivement, donc, c'est une belle... C'est vraiment une belle idée. Et puis, est-ce que ça a été... Il y a eu d'autres qui vous ont imité un peu?
Bien, en fait, effectivement, comme ça fait longtemps qu'on organise ça, on a vu qu'il y a d'autres places qui testent le concept. Puis, je présume un certain succès. Mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde
tout
là-dedans.
À fait.
Là.
C'est chaque vendredi du...
Non, dernier vendredi... Pour nous, c'est le dernier vendredi du mois. Et à l'automne, Et en hiver, on l'a fait deux fois par, mois.
C'est quoi l'adresse?
4479 Saint-Denis. C'est le Roquette, c'est juste au-dessus du Quai des Brumes. J'ai compté mes postes à 200 pas de mes pieds, disons, du métro Mont-Royal.
C'est très, effectivement très rapide. Dis donc, est-ce que vous avez des gens qui fréquentent le Roquette, des gens qui sont en situation de handicap, est-ce qu'on peut en parler ou c'est pas vraiment approprié?
Après ma barre, comme il faut un escalier, il n'y a pas d'ascenseur pour s'y rendre à ce niveau-là.
C'est ça.
Mais ça serait une belle, ce serait à développer dans peut-être dans un autre lieu qui est plus accessible. D'ailleurs, on va parler avec les gens de Kiroul. Alors, oui, ça pourrait être une bonne idée. Ouais,
ça pourrait d'avoir une salle de danse se développer. Il faudrait juste avoir la bonne salle dans ce cas-ci. Effectivement, Roquette, c'est un peu compliqué.
Oui, je comprends. C'est
un petit escalier pas large.
La plupart des boîtes de nuit, souvent, c'est ça. C'est en haut, bien sûr, souvent, c'est à l'étage supérieur et puis c'est pas simple de s'y rendre quand on est en situation de handicap, bien sûr. Bien, écoutez, ça a été un plaisir. Ça a été un petit sujet vraiment bien apprécié en cette fin d'été. On prépare notre automne et puis pourquoi pas aller danser et danser tôt. C'est vraiment à partir de 6 heures, on vous accueille au bar La Roquette, vraiment sur Saint-Denis, c'est ça. Alors, c'est vraiment tout en haut du Quai des Brumes.
Exact.
Merci infiniment, merci. Richard
Poirier. Merci de t'avoir accueilli.
Et merci, Gilbert Boucher. Vous êtes les deux organisateurs de ces fameuses soirées. Et Catherine, tu vas continuer à aller danser, j'en suis certaine. Peut-être que j'irai avec toi.
Oh oui!
C'est vendredi, d'ailleurs.
Non,
on a un vendredi. Là, parfait. Trois jours.
Pour essayer le produit pour l'acheter, là.
Pour finir, la meilleure image que je peux vous donner, c'est l'image que je donne souvent aux personnes qui viennent me voir, puis tout ça. J'ai dit, écoute, c'est simple, là. Notre plus belle récompense qu'on a, Richard et moi, c'est quand on est là, qu'on regarde tout le monde danser, puis tout le monde a le grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. Donc, le monde sont heureux.
C'est ça, c'est exactement.
C'est la plus meilleure récompense que nous, on a. Puis c'est ça, le monde, ils viennent, ils s'amusent, ils sont heureux.
Alors, c'est vraiment que du plaisir en vue. Merci infiniment.
Merci.
Encore une fois.
C'est le temps d'accueillir Simon April de Kiroul. Bonjour.
Bonjour, Saint-Père, ça va bien?
Mais très bien, vous êtes responsable de la formation et de la défense des droits chez Kiroul. Alors, cet organisme bien connu qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte au Québec, mais vous faites plein de choses aussi. Ça, c'est... Alors, je vais vous demander même qu'est-ce que vous faites en plus, parce que, bon, c'est à tous les niveaux, on vous consulte, vous êtes la référence en la matière.
Ben dans le fond, Kiroul, c'est beaucoup plus que juste la sensibilisation sur le handicap, pour tout ce qui est tourisme. Nous, on s'occupe beaucoup de ce qui est le tourisme et la culture également. Donc, Kiroul a toujours eu, au fil des années, comme objectif de rendre tout ce qui est le tourisme, les parcours, les destinations accessibles aux personnes en situation de handicap. Au début, c'est sûr qu'on était beaucoup axé sur la question des personnes en fauteuil roulant, mais de plus en plus, là, on essaie d'être inclusif, nous également, puis d'inclure là, tout le monde là, à pouvoir faire du tourisme et à participer à la culture et la vie québécoise le plus accessible possible.
Oui, parce qu'en fait, puis vous êtes bien placé, vous, en fait, par rapport aux droits, bien sûr, il y a tout l'aspect droit de la personne aussi, d'avoir le droit d'avoir accès à tous, en fait, les mêmes choses que tout le monde.
Oui, bien, c'est juste. Mais c'est aussi, tu sais, c'est une question de droit, mais c'est une question de... tu sais, on veut avoir une expérience comme tout le monde. On veut avoir une expérience qui est profitable. Puis aussi, on veut montrer que le Québec, c'est un endroit qui est destiné à tout le monde. Donc, on veut que les gens, oui, du Québec, voyagent au Québec dans un Québec adapté, accessible, inclusif. Mais on veut aussi que les gens de l'extérieur viennent visiter notre belle province puis voir comment que c'est accessible. C'est sûr qu'il y a encore des défis tous les jours. C'est pour ça qu'on travaille fort là-dessus. Mais aussi, tu sais, il y a plusieurs façons de rendre des endroits inclusifs puis accessibles et accueillants. Parce que nous, chez Kiroul, on fait des certifications d'endroits, donc de lieux accessibles, donc selon des critères. Aussi, on fait de la formation. Donc, moi, c'est mon domaine. On s'occupe de former le personnel, d'outiller les gens pour qu'ils puissent avoir un bon service à la clientèle. Mais tu sais, on le fait au niveau de la restauration, de l'hôtellerie, des endroits, dans le fond, tout ce que l'expérience client pour que les personnes en situation de handicap là, se sentent bien et veulent revenir puis tenter d'autres expériences.
Monsieur April, à ce jour, vos plus grands défis actuellement, là, ce serait quoi?
C'est sûr qu'au niveau... dans le fond, c'est quand on se déplace d'une région. Ce qui est difficile là-dedans, c'est d'avoir un endroit d'hébergement, un trajet, d'avoir les commerces accessibles, d'avoir des activités accessibles. Mm-hmm. Donc, c'est d'avoir tout ça, mais à peu près dans le même lieu. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, là, d'établir des parcours accessibles pour que les gens puissent aller. Je dis un exemple, là, je m'en vais dans les Laurentides, je vais avoir un endroit où que je peux dormir, mais pas juste dormir, puis c'est accessible de base. Moi, ce que je veux, c'est une belle expérience. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos membres et que les personnes en situation de handicap puissent profiter de ça, puis puissent prouver aux gens aussi que cette clientèle-là est en croissance. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui veulent profiter
de ça. Oui, vieillissement aussi, ça fait partie de cette clientèle bien souvent à mobilité réduite. Alors,
oui,
c'est une clientèle dont il faut tenir compte de plus en plus.
Puis on a fait beaucoup de projets là dernièrement, comme cet été, on avait le projet de taxi. Je pense que tout le monde a entendu un petit peu parler là avec Taxelco, parce que c'est un défi aussi pour les gens qui vont dans une région faire du tourisme, mais qui sont pas nécessairement avec le transport adapté, parce qu'on sait que le transport adapté, il faut planifier. Donc, il faut planifier une journée d'avance ou plus, faut dire où est-ce qu'on va, les heures de retour et tout. Puis, ce qu'on trouvait, ce qui manquait un peu, c'est l'aspect taxi. L'aspect un peu... c'est comme on dit sur le fly, là. Moi, je vais aller à tel endroit. Donc, est-ce que je peux réserver un taxi adapté, accessible? Donc, c'est ça qu'on a fait là, cette année. Là, on a un projet qui est du 10 au 18 juillet au 10 octobre, dans le fond, avec Taxelco, puis tous les grands noms du taxi à Montréal, pour offrir là, des services de taxi en dedans de 1 heure pour avoir un taxi accessible.
Ah, c'est bien ça.
Oui, c'est bien. D'ailleurs, ben, je soulève, bon, il y a le baladeur qui, en fait, oui. qui est diffusé régulièrement. Là, il y a 4 parutions, je pense, par année. Et oui. Printemps-été, vous aviez toutes sortes d'exemples de lieux, justement. Et puis, vous parliez de, bon, par exemple, les îles de la Madeleine, bon, oui. des nouvelles certifications, des gens avec qui vous avez travaillé, notamment pour de l'hébergement adapté, accessible. Mais aussi, on pense aux fameux traversiers, et plein de choses. Finalement, ça touche... vous parliez de taxi, comment on se déplace. Ouais. C'est vraiment... Alors, je pense que si on met la main sur cette parution-là, évidemment, comme on a dit, 4 parutions par année, là, le baladeur, ça donne déjà plein d'idées de ce que vous faites. C'est fort intéressant.
Puis ce qui est le fun dans cette revue-là aussi, c'est qu'on a des expériences de gens qui ont fait... ils ont visité tel musée, sont allés à telle région, à tel endroit... Puis on voit l'expérience que ces gens-là ont vécue, puis c'est quoi les bons coups puis les mauvais coups. Mais mm-hmm. on est beaucoup axé sur les bons coups, puis on veut que les gens s'améliorent. Puis on, aussi, on veut, je vais le dire comme ça, on veut contaminer un peu tout ça pour que, cette région-là, Caroline, il y a beaucoup d'hébergements, on peut faire ce qu'on veut. Puis, tu sais, dans le fond, une personne handicapée, là, quand ça veut faire du tourisme, ça veut réfléchir à rien. Ça veut...
Mm-hmm. Il faut que ce soit simple, les vacances, là.
Exactement. Ouais. Et on veut s'abandonner, on va avoir du plaisir. Ouais. Puis pas toujours réfléchir, je vais-tu pouvoir rentrer, je vais-tu pouvoir faire telle activité. Mm-hmm. Mais si le baladeur permet de prévoir où est-ce que c'est le plus accessible, est-ce que je vais aller à cette région-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment intéressant pour ça. Ça donne des idées, des fois. Des gens qui sont même pas en situation de handicap peuvent regarder
absolument.
Ça. C'est une bonne idée, je pourrais aller là. Et je pourrais amener ma mère, par exemple.
Et voilà. Alors donc, l'idéal, c'est de proposer, c'est ça, des circuits, des parcours où on sait qu'on va trouver l'hébergement, enfin, tout ce qu'il faut au niveau restaurant et tout pour adapter, justement, avec qui sont accessibles, quoi. Mais, mais finalement, il y a qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voyons, j'ai perdu mon idée, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais...
on m'a parlé, moi, de nouveaux projets de veste à vibration. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ben, dans le fond, cet été, on était beaucoup dans les festivals. Ouais. On a fait beaucoup de formations et d'évaluations des festivals à grandeur de la province. Puis, il y a quelque chose qui s'est démarqué au niveau du groupe Evenco. C'est eux qui organisent tout ce qui est Oceaga, Hilsonic, Lato et tout. Mm-hmm. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que nous, on a notre programme qui est le programme CAET, là, programme activité touristique des petits établissements. Donc, nous, ce qu'on voulait promouvoir là-dedans, c'est qu'on peut se rendre accessible les endroits dans lesquels on rend accessible une porte et tout. Mais pour la question des festivaliers, des fois, c'est surtout axé sur la musique. Puis, pour les gens qui sont sourds ou avec une déficience auditive, ce qu'on leur a permis, c'est dans le fond de pouvoir acheter des vestes qui sont à vibration. Puis, dans le fond, ça leur permet d'avoir l'expérience de la musique.
Génial.
Sans l'entendre.
Ah, oui.
Alors donc,
c'est des choses, dans le fond, qu'on peut, avec notre programme PAET, financer. Donc, tu sais, des fois, on essaie de trop penser, c'est pour une rampe, une porte d'accès, une salle de bain. Mais c'est beaucoup plus que ça, dans le fond.
Alors donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, plein d'organismes, je voulais dire que cet été, on a reçu tellement de gens qui font affaire avec vous, plein d'entreprises, des endroits là, à visiter, bien sûr, qui ont dit, nous, on a fait affaire avec Kiroul. Alors, comme on le disait, vous êtes vraiment la référence à ce niveau-là. Et puis, c'est drôle parce que là, il y a les Jeux paralympiques qui s'en viennent, qui commencent là, cette semaine à Paris, bien sûr. Mais on pense aux sportifs. Et puis, je pensais à notre fameuse porte-parole ici, là, qu'on voit ces temps-ci, qui parle de Canal M, Camille Tché, là, je pense que c'est comme ça que... Chai. Je m'excuse. Alors, a été une athlète. Et puis, ce qu'elle disait, c'est que c'est bien beau, de performer, tout ça, mais c'est tout le reste qui était compliqué. Il n'y avait pas... D'ailleurs, c'est ce qui l'a... Elle était en escrime, mais c'est ce qui l'a un peu découragée avec le temps parce que, mais est-ce que je vais être capable de me rendre à mon entraînement? Le stationnement, il y a plein de choses, finalement, pour ces gens-là qui... tu sais, t'as beau vouloir vivre une vie normale, mais finalement, il y a plein d'embûches. Et vous êtes là, justement, pour pallier à tout ça, finalement?
Amener
des solutions, du moins.
Oui, c'est ça, parce que dans le fond, tu sais, comme si tu veux bien performer aux Paralympiques, mais encore, il faut que tu te soucies un peu moins de ce qui vient avant. Mm-hmm. Donc, pour régler ce qui vient avant, ça, on parle de tout ce qui est le transport aérien pour y aller. Là, après, on parle de tout ce qui est l'hébergement. Moi, j'ai vérifié pour les Jeux olympiques, les Paralympiques de Paris. C'est beaucoup Airbnb et non les hôtels. Ce que je trouve un petit peu dommage, parce que dans le fond, ici, il faudrait pas en venir à ça. Il faudrait que les hôtels, ben je pense qu'ils font déjà des efforts, mais il faudrait que l'association des hôtels mette les bouchées doubles pour que l'offre de service, justement, là, pour l'hébergement soit là pour les personnes en situation de handicap. Puis c'est ce que Paris a essayé de faire, mais là, quand je vois que c'est Airbnb qui est un des commanditaires principaux, ça veut dire que ça n'a pas tout à fait été peut-être compris par l'Association des hôtels de Paris, mais je suis convaincu qu'au Québec, là, on va faire ça différemment.
En tout cas, grâce à vous, oui, je pense que les choses se sont grandement améliorées depuis des années. On en parle régulièrement ici à Canal M. Alors, vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir parce que vraiment, on n'en parle jamais assez. Et puis, que ce soit pour des gens qui sont en construction, l'accessibilité universelle, là, ça devrait être mis de l'avant dès le départ, finalement. Oui, c'est ça.
Ben, ça me fait plaisir. Puis n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, si vous avez besoin de nos aides, notre aide, appelez-nous.
Ben, c'était un plaisir. Et
merci, Monsieur April.
Ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, c'est déjà tout, Nathalie.
Ben oui.
On va se retrouver demain, bien sûr. Demain, on vous présente des extraits d'entrevues qu'on a déjà
des coups de cœur,
réalisés au cours de l'été, mais des petits coups de cœur, tout ça, c'est des sujets inspirants. Alors, à demain, tout le monde. Au revoir, bon après-midi à M l'été.